Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Dans ce magazine, un nouvel appel des frères maristes en Syrie, lancé à quelques heures d'un scrutin présidentiel qui devrait maintenir Bachar el-Assad au pouvoir, alors que la violence connaît une nouvelle escalade. À Alep, des dizaines de personnes, dont des enfants, ont été tuées lors de bombardements. Devant les évêques du Zimbabwe, le pape François a abordé sans détour ce lundi les difficultés économiques, sociales et politiques que connaît ce pays dirigé par le président Robert Mugabe depuis son indépendance en 1980. Dans ce contexte délicat, le Saint-Père a exhorté les évêques à travailler au dialogue et à l'unité du peuple. Coup de projecteur sur l'Azerbaïdjan dans cette émission. La première dame de ce pays du Caucase a été reçue au Vatican. Elle dirige une fondation qui a pour objectif principal la sauvegarde des valeurs culturelles et spirituelles et la promotion de projets dans le domaine de l'éducation et de la santé. En pleine guerre civile, les Syriens sont appelés à se rendre aux urnes ce mardi pour un scrutin présidentiel joué d'avance. Bachar el-Assad est assuré de l'emporter, ses concurrents n'étant pas crédibles. Selon de nombreux observateurs, il n'y aura pas de bureau de vote dans les campagnes et dans les quartiers tenus par les rebelles. Alors que la population tente de survivre, dévastée par 3 ans d'un conflit qui fait chaque jour des dizaines de morts. À Alep, au nord du pays, la situation est catastrophique. Les frères maristes lancent un appel à l'aide. De nombreuses familles déjà déplacés sont aujourd'hui sans logement. C'est ce que nous explique le frère Georges Sabé, joint sur place ce lundi matin.
La situation à Alep est maintenant très très compliquée. Elle est grave parce que depuis quelques semaines, la rumeur courait à Alep que les rebelles vont augmenter leurs tirs de mortier sur les quartiers résidentiels d'Alep pour faire pression sur l'État et empêcher la tenue de l'élection. Ils ont tenu parole. Presque toute la ville a reçu des mortiers de tous côtés. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de destruction et beaucoup de gens qui se sont encore déplacés encore une fois. Je veux parler spécialement de la situation d'un quartier qui s'appelle Al-Midan, dont la majorité sont des Arméniens et des chrétiens, une petite minorité de musulmans. C'est un des quartiers les moins chers de la ville où se réfugient d'habitude les personnes avec des ressources très limitées. Ce quartier, il a été la cible de mortiers et de bombardements jusqu'à ce matin. Certaines personnes ont dû passer leur nuit dans les sous-sols, d'autres, à leur risque et péril, sont sorties, mais les gens ont quitté le quartier.
La question principale aujourd'hui est de reloger ces personnes. Avez-vous le financement pour venir en aide à ces personnes? Y a-t-il des ONG qui vous soutiennent?
Malheureusement, je dois vous confesser que nous avions depuis déjà des mois lancé des appels. Mais jusqu'à maintenant, les organismes internationaux catholiques, malheureusement, n'ont pas donné suite à notre demande urgente. J'espère que ces organismes qui se sont réunis puissent se mobiliser et nous aider à loger ces personnes-là. Je lance à travers la radio du Vatican un appel urgent. C'est très urgent. S'il vous plaît, nous avons besoin d'une aide urgente devant cette situation catastrophique.
La population d'Alep, dévastée par 3 ans de guerre civile, comment appréhende-t-elle le scrutin présidentiel de ce mardi?
Cette population souffre. Cette population sent qu'elle est absolument oubliée. Alors, se diriger vers le scrutin, c'est exprimer que nous ne voulons pas un vide constitutionnel, nous voulons la paix, nous choisissons de vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on veut exclure l'autre, mais ça veut dire que nous voulons choisir une paix. Malgré toute la peine et toute la souffrance dans laquelle chacun de nous se trouve actuellement et les familles se trouvent actuellement.
Des bureaux de vote ont été installés à Alep. La population va pouvoir voter?
Les bureaux de vote sont installés dans la partie de la ville sous contrôle du gouvernement. Les gens je l'espère, vont pouvoir y aller, mais il y a une menace réelle. On nous a menacé depuis une semaine de nous envoyer sur les bureaux de vote et sur les personnes qui vont aller voter des mortiers, des bombes. Je ne sais pas demain comment ça va se passer. Les gens craignent d'être tués. Les gens veulent dire leur point de vue, s'exprimer. Mais vraiment, il y a une vraie peur qui s'installe. Je dois vous dire qu'actuellement, il n'y a plus aucun quartier qui soit en sécurité dans toute la ville d'Alep.
Quel regard la population porte-t-elle sur ce scrutin qui était dénoncé par l'Occident et où aucun candidat de l'opposition n'est en lice ?
Malheureusement, l'Occident et l'opposition veulent qu'il y ait un vide constitutionnel. Ils n'essayent pas de dialoguer, ils n'essayent pas de parler. Ils veulent évincer. Ils ne peuvent pas ne pas regarder autrement ce que la population veut. Je crois que nous avons le droit de dire notre mot. Pour nous, il est important qu'il n'y ait pas de vide constitutionnel dans le pays. Pour nous, il est important qu'on tende la main à tout Syrien de bonne volonté, qu'on puisse ensemble reconstruire notre pays, reconstruire l'homme qui est vraiment anéanti par tout ce qui se passe en Syrie.
Le frère Georges Seb est mariste à Alep, interrogé par Hélène Destombes. Le pape François évoquait ce lundi les terribles souffrances endurées par la population du Zimbabwe et les blessures qui déchirent ce pays. Violence, misère, frustration, désespoir. Le Saint-Père recevait les évêques zimbabwéens venus à Rome pour leur visite ad limina. Dans le message qu'il leur a remis, il les exhorte à poursuivre la mission prophétique qu'ils ont accomplie avec courage et détermination avant et après l'indépendance. Il les invite par ailleurs à renforcer l'unité au sein même du clergé et à lutter pour éliminer les dissensions et les intérêts particuliers. Au Zimbabwe, les chrétiens sont très critiques envers le gouvernement du président Mugabe, accusé d'abus continuels à l'encontre des droits de l'homme et de mener une politique économique catastrophique qui a littéralement conduit le pays à la famine. La Constitution garantit la liberté religieuse, mais une loi de 2002 sur l'ordre public et la sécurité est souvent invoquée par le gouvernement pour harceler et intimider les chrétiens. Les activités missionnaires sont considérée avec suspicion par peur qu'elle n'ait des finalités politiques. Les rapports sont particulièrement tendus entre l'église anglicane et la classe dirigeante qui s'accroche au pouvoir. Le Zimbabwe est très riche en pierres précieuses et pourtant l'État, endetté, peine à payer ses fonctionnaires. Xavier Sartre nous propose un compte-rendu du message du pape François aux évêques catholiques du Zimbabwe.
L'église du Zimbabwe est aux côtés de son peuple dans ces années de très grande souffrance où des millions de personnes ont fui le pays dans un état de frustration et de désespoir, où tant de vies ont été perdues, où tant de larmes versées. Le pape François rend ainsi hommage à cette église qui, dès 2007, dénonçait une crise dont les racines sont spirituelles et morales. Mais le pape incite aussi cette église à s'impliquer pour guider avec une infinie tendresse tout le monde vers l'unité et la guérison. Qu'ils soient blancs ou noirs, riches ou pauvres, quelle que soit leur tribu, les chrétiens se trouvent de chaque côté des lignes de fracture politique et sociale qui traversent le Zimbabwe. Les évêques doivent donc faire en sorte que les églises locales démontrent que la réconciliation n'est pas un acte isolé, mais un long processus par lequel toutes les parties sont rétablies dans l'amour. Cette présence de l'église est d'autant plus nécessaire que de nombreuses personnes ont atteint leurs limites humaines et ne savent plus où se tourner. Le pape demande donc aux évêques d'encourager les fidèles à ne pas perdre de vue les voies par lesquelles Dieu entend leurs suppliques et répond à leurs prières. L'église du Zimbabwe doit, plus que jamais, servir de pont entre les hommes et entre les hommes et Dieu.
Le souverain pontife a par ailleurs reçu ce lundi matin l'épouse du président azerbaïdjanais. Madame Mehriban Aliyeva dirige la fondation qui a financé les travaux de restauration des nombreuses fresques des catacombes romaines des Saint-Pierre et Marcellin, joyaux de l'architecture des cimetières paléochrétiens ouvertes au public depuis la mi-avril. Ce généreux crédit est le fruit d'un accord souscrit en juin 2012 entre la fondation Edar Aliyev et la commission pontificale d'archéologie sacrée. L'Azerbaïdjan est un pays en pleine croissance grâce grâce à l'exploitation du pétrole et du gaz. Cette république du Caucase, à majorité musulmane chiite, est devenue indépendante en 1991 suite à l'éclatement de l'URSS. Elle abrite l'une des plus petites et des plus récentes communautés catholiques du monde, visitée par Jean-Paul II en 2002. Au micro de Cyprien Viet, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès du Saint-Siège, Elchin Amirbayov, affirme que son pays veut devenir un exemple pour le dialogue interreligieux.
Moi, en tant qu'ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès des Saint-Sièges, je suis accrédité depuis 2005. Et je suis le premier ambassadeur. Avant ça, notre pays n'était pas représenté auprès des Saint-Sièges. Ça fait déjà presque 10 ans. Les dernières années, on a essayé de tisser les relations avec les Saint-Sièges, se basant sur le fait que l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est assez intéressant pour le Vatican, pour les Saint-Sièges. La religion est tout à fait séparée de l'État. En même temps, c'est un pays qui se trouve au carrefour des civilisations, au carrefour des continents, entre l'Europe et l'Asie, entre l'Est et l'Ouest, et qui a toujours profité de cette position géostratégique. Et on voit ça dans sa diversité, diversité culturelle, ethnique, religieuse, confessionnelle, même climatique. Les relations avec un État comme le Saint-Siège est expliqué par le fait que l'Azerbaïdjan veut vraiment communiquer vers le monde entier sur sa ouverture vers tout le monde, mais aussi en particulier, on tient beaucoup à cœur les valeurs européennes, les valeurs occidentales, en même temps en préservant nos propres racines. Et on a vu de la part de Saint-Siège cet intérêt, et on a pensé que s'il y a un intérêt réciproque de se faire connaître mieux, de montrer que certains stéréotypes et clichés autour des pays musulmans ne sont pas toujours corrects. On peut être un pays avec la population majoritairement musulmane, mais en même temps, on peut être un pays tolérant, divers, en même temps laïque et ouvert vers le monde.
Est-ce que justement, le fait d'être un pays musulman en Europe, pour la stabilité mondiale, pour la compréhension entre les différents bassins de civilisation, est-ce que vous pensez que ce rôle de pivot de l'Azerbaïdjan peut être un facteur stimulant pour le Saint-Siège aussi ?
Oui, d'abord, il faut souligner que nous sommes devenus membres du Conseil de l'Europe en 2001. L'intention d'Azerbaïdjan de s'ancrer en Europe, parce que nous sommes vraiment à la limite. Et je me souviens, quand la décision était prise par le Conseil de l'Europe de permettre l'adhésion des 3 pays du Caucase, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, devenir des membres à part entière du Conseil de l'Europe, la considération qui était prise en compte, c'était vraiment la vocation européenne qui réunit tous ces pays et qui fait possible que ces 3 pays soient admis à cette organisation. 6 mois de présidence dans cette organisation nous permettra vraiment de souligner les atouts et les avantages que l'Azerbaïdjan possède. Et je crois qu'aujourd'hui, l'importance de dialogue interculturel et interreligieux fait que le rôle des pays comme l'Azerbaïdjan s'accroît. Et on voit notre vocation dans cette manifestation.
Alors justement, vous avez fait allusion au dialogue interreligieux et à la culture. Je crois que ce sont les 2 conseils pontificaux avec lesquels l'Azerbaïdjan travaille ici. Qu'est-ce qu'il y a comme programme précis ?
Chaque année, l'Azerbaïdjan accueille un forum international qu'il organise en coopération avec l'UNESCO, mais aussi avec le Conseil de l'Europe, dédié au dialogue interculturel. Et dans ce sens-là, l'Azerbaïdjan entretient très bonnes relations avec, en particulier, le Conseil pontifical pour la culture, présidé par cardinal Gianfranco Ravasi, qui a d'ailleurs visité 2 fois la République d'Azerbaïdjan. Et ça s'explique par le fait qu'il y a un programme de longue durée de coopération et partenariat. On organise des événements culturels mutuels, comme exemple l'exposition qui a été co-organisée par ce Conseil pontifical avec notre pays. Et en novembre 2011, dans le musée du Vatican, dans le Braccio de Carlomagno, il y avait une exposition sur les valeurs culturelles d'Azerbaïdjan, un pays au carrefour des civilisations.
Et peut-être une question aussi sur la communauté catholique d'Azerbaïdjan. Je crois que Jean-Paul II était venu en Azerbaïdjan il y a 10 ans. Quelle est la présence catholique en Azerbaïdjan ? Est-ce qu'il y a des paroisses, des prêtres ? Comment un catholique d'Azerbaïdjan peut vivre sa foi actuellement ?
D'abord, il faut dire que cette visite, en mai 2002, c'est une visite historique parce que c'est la première fois que le pape a visité Azerbaïdjan. Et je me souviens que pendant cette visite, la décision a été prise entre les 2 chefs d'État de construire une église catholique en Azerbaïdjan pour une communauté qui était tout petite, À l'époque, il s'agissait de peut-être centaines de personnes de foi catholique. Aujourd'hui, les nombres sont plus importants, mais quelques centaines quand même. Mais même pour ce nombre des gens, on a vraiment le lieu pour exercer leur foi, vraiment. Et l'église catholique moderne était construite après cette visite historique de Jean-Paul II. Et en 2008, c'était le secrétaire d'État, cardinal Bertonnet, qui a inauguré avec le président de la République d'Azerbaïdjan et en présence de la Première Dame, donc cette église qui fonctionne très bien. J'avais mentionné la diversité religieuse, culturelle et ethnique d'Azerbaïdjan. C'est un pays qui se trouve dans un voisinage pas très facile, mais où il y a une existence ou coexistence harmonieuse. Je crois que c'est notre richesse.
C'était l'ambassadeur d'Azerbaïdjan près le Saint-Siège, Elchin Amirbayev. L'écuménisme, on le sait, est au cœur des priorités du pape François. Cette semaine, le Vatican accueillera le catholicos du siège de Cilicie de l'Église apostolique arménienne. Aram Ier sera à Rome du 3 au 6 juin. Une prière commune avec le Saint-Père est prévue jeudi. Pendant sa visite, le catholicos, qui est également président du comité central du Conseil écuménique des Églises, sera notamment reçu au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Il priera sur la tombe de Saint-Pierre dans la basilique vaticane et devant la statue de Grégoire l'Illuminateur, le père de l'Arménie chrétienne, qui trône dans une niche de la cour nord. Saint Grégoire est le premier saint oriental représenté dans une niche de la basilique. Aram Ier, qui réside au Liban, a déjà rencontré Jean-Paul II en 1997 et Benoît XVI en 2008. Il a joué un rôle actif dans la création et la restructuration du Conseil des Églises du Moyen-Orient et s'est prononcé à plusieurs reprises sur l'importance de sauvegarder la présence chrétienne dans cette région. Religion et diversité culturelle, défis pour les églises chrétiennes en Europe, c'est le thème du 4e Forum européen orthodoxe catholique réuni jusqu'à jeudi à Minsk en Biélorussie. Une initiative du Conseil des conférences épiscopales d'Europe avec les églises orthodoxes présentes en Europe. Les participants se pencheront à huis clos sur d'importantes questions anthropologiques et pastorales, telles que le lien entre la religion et la réalité culturelle en Europe aujourd'hui, le rôle des valeurs humaines et chrétiennes dans les sociétés européennes multiculturelles contemporaines, la liberté religieuse ainsi que la reconstruction morale de l'Europe. En revanche, le forum n'abordera pas les questions doctrinales traitées depuis des années à d'autres niveaux. Le forum précédent, en 2012 à Lisbonne, avait porté sur la crise économique et la pauvreté. Un message final sera rendu public jeudi. En France, l'Action catholique ouvrière tiendra sa 21e rencontre nationale du 7 au 9 juin à Angers. Pour 3 jours de travail et de fête, le regard tourné vers les plus fragiles. Ateliers et célébrations, temps d'échange et de détente. Face à la dégradation sociale, l'ACO veut se positionner au cœur de la société et de l'Église. Dans un monde en crise et en perte de références chrétiennes, elle s'engage en faveur des travailleurs précaires et de l'annonce de la bonne nouvelle. Jean-Baptiste Cocagne.
Miroir d'un monde ouvrier qui bouge, l'Action catholique ouvrière compte de plus en plus de retraités, chômeurs, travailleurs pauvres, employés de commerce ou de ménage, et elle s'efforce de favoriser leur parole et de renforcer leur prise en compte. L'ACO n'a pas vocation à être un syndicat, mais elle soutient les salariés licenciés, aide les personnes concernées à découvrir les lois et les conventions collectives. Dans ses équipes, qui intègrent cadres, ouvriers et employés, le mouvement favorise la révision de vie dans le dialogue, sans pour autant négliger son ancrage ecclésial, accompagnement de catéchumènes, animation d'ateliers bibles, temps de retraite, témoignages de prêtres qui ont cheminé avec le mouvement, etc. Le Conseil national souligne que c'est bien au nom de l'espérance en Jésus-Christ ressuscité que des chrétiens, en l'occurrence du monde ouvrier, s'engagent pour la justice et la dignité. Les actions concrètes de solidarité et les réflexions de ses membres découlent de leur foi. Sa démarche éducative se retrouve aussi au niveau spirituel dans l'accueil de personnes de plus en plus nombreuses pour une première annonce de l'Évangile. Le rapport d'activité qui sera présenté le 7 juin à Angers a du reste pour fil rouge le texte des pèlerins d'Emmaüs. Le but n'est pas seulement de témoigner de tout ce qui s'est vécu, mais de le relire avec un regard de croyant.
Un deuil au sein du Sacré Collège. Le cardinal indien Simon Lourdesamy, premier cardinal d'origine tamoule, est mort à l'âge de 90 ans. Il avait démissionné en 1991 de sa charge de préfet de la Congrégation pour les Églises orientales pour des motifs de santé. Avant d'être appelé à la curie romaine, il avait notamment dirigé l'archidiocèse de Bangalore. Les obsèques du cardinal Lourdesamy seront présidées jeudi matin à Rome par le cardinal Angelo Sodano, doyen du Collège cardinaliste. Le pape François présidera le rite final. Le pape François qui a fait parvenir ses condoléances à l'archevêque de Pondichéry, diocèse natal du défunt. Le collège des cardinaux compte désormais 214 membres, dont 119 électeurs. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.